Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous terminons l'année liturgique. Cette année liturgique est un résumé de l'histoire du salut. Le temps de l'Avent correspond aux 4000 ans d'attente du Messie promis à nos premiers parents et à leurs descendance. Le temps de Noël correspond à la venue historique du Messie, son incarnation dans le sein de Marie, sa naissance il y a 2000 ans à Bethléem, sa croissance à Nazareth. Le carême et la passion attirent notre attention sur les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère de la rédemption qui s'est accompli dans le temps sous le gouvernement de Ponce Pilate en l'an 33. Le temps pascal réjouit nos âmes en racontant la résurrection, l'ascension de notre Seigneur et l'envoi du Saint-Esprit qui va assister l'Église dans son développement. Le temps liturgique après la Pentecôte correspond à l'histoire du monde de la Pentecôte en l'an 33 jusqu'à la fin du monde. Nous sommes dans ce temps, nous qui vivons en 2017. C'est un temps de grâce où les bienfaits du salut accomplis dans le temps par notre Seigneur se déverse sur les âmes de bonne volonté pour faire d'elles des saints qui complètent les places laissées libres au ciel par les anges révoltés. En attirant nos regards sur le jugement dernier, qui arrivera historiquement aussi sûrement que tout le reste s'est déjà accompli, la liturgie de ce dernier dimanche après la Pentecôte nous invite par saint Paul à rendre grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons par son sang la rédemption et la rémission des péchés. Saint Paul considère que c'est déjà chose faite. Effectivement, le salut est déjà acquis pour tous les hommes de bonne volonté. Il reste à nous à l'accepter et à le mettre en pratique. Notre vie ici-bas est donc quelque chose de sérieux. Elle débouche soit sur une éternité de bonheur, soit sur un malheur éternel. Tout cela est entre nos mains, selon l'usage que nous ferons de notre liberté. Dieu veut notre union à lui dans la gloire. Il la veut pour tous les hommes. Pour cela, il tient à notre disposition tous les biens nécessaires pour y parvenir. Si nous voulons plaire à Dieu en tout, nous dit saint Paul, il faut produire les fruits des bonnes œuvres et grandir dans la science de Dieu. La connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes sont nécessaires pour réaliser notre salut. Alors voyons d'abord la connaissance de Dieu. Bien que nous ayons appris que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, dans la vie concrète que nous menons, nous avons du mal à le croire. Les souffrances de toutes sortes, la mort, la réalité de l'enfer, ne nous donne-t-elle pas une image d'un Dieu dur, inflexible, exigeant, sévère? La Sainte Écriture nous répond dans l'introït de la messe. Le Seigneur dit, « J'ai des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Je ramènerai vos captifs de tous les lieux où ils sont dispersés. » Les captifs, c'est nous, plus ou moins prisonniers de nos péchés, avec toutes leurs conséquences, angoisse, souffrance, mort. Pourtant, Dieu n'a qu'un désir, nous libérer de tout cela pour nous faire jouir de la vraie vie, la vie éternelle. Dieu en lui-même n'est que bonté, miséricorde. Cette bonté se répand naturellement de son cœur. Bénir, pardonner, aider, délivrer, donner la joie est propre à Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon, sage, parfait. c'est le péché, celui des anges révoltés, celui de nos premiers parents, le nôtre, qui introduit le désordre dans l'univers. La souffrance, les maladies, les guerres, la mort, c'est le résultat du péché. Le bon Dieu, nous ayant créés libres, nous a laissé la possibilité de mettre le désordre dans son œuvre admirable, de l'offenser gravement. C'est une triste liberté que le péché, puisqu'il nous détourne de ce qui fait notre bonheur, il nous détourne du but de notre vie, ce pourquoi Dieu nous a créés, la vie éternelle. Dieu manifeste sa bonté en la répandant sur toutes les créatures, depuis la création. Tout ce qu'il y a de bon dans les créatures vient de lui, car lui seul est bon. Rappelez-vous la question du pharisien à notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'aborde, il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle ?» Et notre Seigneur lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais Dieu est aussi juste. Pour que sa justice entre en jeu, il faut qu'elle soit provoquée par un être en dehors de Dieu. Ces êtres en dehors de Dieu, ce sont nous, c'est nous-mêmes. Cet être lui résiste. Cette créature lui résiste, l'offense, et elle attire le châtiment. C'est nous qui forçons Dieu à punir. Sans révolte, sans péché, la justice de Dieu n'intervient pas. Elle ne manifeste que sa bonté. Celui qui résiste à Dieu jusqu'au moment de la mort va dépendre après uniquement de la justice divine. Presque uniquement. Sainte Catherine de Gênes explique cela. Comme l'esprit ne trouve de repos qu'en Dieu, pour qui il fut créé, ainsi l'âme en état de péché ne peut rester nulle part, après sa mort, qu'en enfer. Car à cause de ses fautes, l'enfer est devenu son but. Ce lieu préparé par Dieu est un effet de sa justice, mais aussi un effet de sa miséricorde. Si l'âme, dit la sainte, n'était pas obligée d'obéir à ce décret de la justice divine, elle se trouverait en quelque sorte en dehors de l'ordre divin, et donc dans un enfer plus profond encore. C'est pourquoi, ne trouvant pas de lieu mieux approprié, ni dans lequel la peine serait moins grande, elle se précipite d'elle-même dans celui qui l'attend, dans l'enfer. Voilà le sort des âmes qui meurent en état de péché mortel. En enfer, les damnés et les démons ne peuvent dire que ces mots « c'est juste, c'est juste ». Mais revenons à la bonté, à la miséricorde. Cette miséricorde qui est la bonté se penchant vers notre misère pour la guérir. Quand la bonté de Dieu ne trouve pas d'obstacle, même dans les plus grands pécheurs, elle les transforme et elle en fait des saints. Nous en avons d'innombrables exemples dans la vie des saints, sainte Marie-Madeleine, saint Augustin, saint Paul. Le plus touchant est peut-être celui de saint Dismas, le bon larron. Il était endurci dans une longue vie de péché. Ayant passé l'âge de 60 ans, il avait commis brigandage, vol, meurtre, viol, idolâtrie, tous les péchés possibles et en grand nombre. Finalement, il était arrêté, condamné à mort et cloué à la croix, à la droite de Jésus. Pendant ces heures d'agonie sur la croix, il est touché par la patience de Jésus qui souffre un châtiment injuste. Le bon larron reconnaît que pour lui et son compagnon, c'est justice, vu tout le mal qu'ils ont fait. Et cela suffit pour attirer la grâce. L'obstacle est enlevé. La bonté de l'homme-Dieu va pouvoir couler dans son âme. La parfaite contrition va se traduire par l'acceptation des souffrances de la croix et la mort. Sa faute et les peines dues à ses nombreux péchés seront effacées complètement. Il pourra jouir du bonheur du ciel. Jésus le lui promet. Il a cru en la miséricorde de Dieu, il n'a pas été déçu. Quelle différence pour le mauvais larron ! Il n'a pas reconnu sa faute. Il aurait voulu aussi lui être délivré par Jésus, mais pour continuer sa vie de péché. Alors il s'est endurci dans sa révolte et il est mort impénitent. La reconnaissance de ce qu'il est comparé à la bonté du Sauveur qu'il voit à ses côtés a fait naître l'espérance chez le bon larron. Elle a sauvé. Il en est de même pour nous. La contemplation de la bonté et de la miséricorde de Dieu, jointe à la connaissance de nous-mêmes, reconnaître vraiment en vérité ce que nous sommes, est en effet un principe puissant de croissance surnaturelle. Alors examinons un petit peu la connaissance de nous-mêmes. Nous connaître en vérité, c'est l'humilité. Bien que nous ayons fait de multiples fois l'expérience de notre impuissance à persévérer dans la lutte contre les tentations, l'expérience de notre faiblesse à surmonter nos défauts pour pratiquer la vertu, pratiquement, nous recommençons souvent à faire les mêmes erreurs. Pourquoi cela ? Nous nous appuyons d'abord sur nous-mêmes, sur notre expérience, sur nos qualités, sur nos dons naturels, comme si nous étions maîtres totalement de nous-mêmes. L'amour propre nous aveugle. Dieu alors nous laisse à nous-mêmes et nous faisons l'expérience de notre faiblesse. Tout notre être est tiré vers le bas, nous en faisons l'expérience quotidiennement. Se connaître, c'est en être conscient, mais il ne faut pas en rester là. Il faut se défier de soi-même en tout pour chercher appui sur Dieu, pour conduire sa vie. C'est pourquoi la collecte de la messe nous fait demander à Dieu d'exciter notre volonté afin qu'elle produise des œuvres de la grâce. Et dans la secrète, elle nous fait demander de tourner nos cœurs vers lui afin que, délivrés des convoitises de la terre, nous soyons pleins des désirs du ciel. Enfin, dans la post-communion, on demande que la Sainte Eucharistie nous guérisse de tout ce qu'il y a de vicieux dans notre âme. Le temps de notre salut est en train de se dérouler. Il faut le saisir. Le bon Samaritain, Jésus, est descendu du ciel il y a 2000 ans. Il a accompli la rédemption. Il a fondé son Église, à laquelle il a donné son enseignement qui nous montre le chemin à suivre pour aller au ciel. Il lui a donné les sacrements qui donnent la force de parcourir ce chemin jusqu'au bout. Alors, écoutons-le. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point, parce qu'elles sont vérité et vie. Chaque année liturgique, vécue dans de bonnes dispositions, apporte à nos âmes un surcroît de vie surnaturelle. On peut faire une comparaison avec la vie naturelle, le cycle des saisons, chaque année qui revient. Chaque année qui revient apporte, les fruits nécessaires à l'homme pour vivre, pour développer sa vie. Alors, faisons ce qui dépend de nous. Le laboureur travaille la terre, la sème. Il compte sur Dieu pour la croissance et la récolte. Certes, il arrose, il désherbe, etc. Et Dieu bénit son travail. Et il le réjouit par d'abondantes récoltes. Faisons de même pour nos âmes. Pendant cette nouvelle année liturgique, labourons nos âmes par la pénitence, par la contrition de nos fautes. Prions pour obtenir la rosée et la pluie céleste de la grâce. Désherbons nos âmes, c'est-à-dire arrachons nos défauts en pratiquant la mortification. Portons avec courage la croix de ce travail spirituel et sachons rendre grâce pour tous les bienfaits déjà reçus et tous ceux que nous allons recevoir encore. Trois petites résolutions qui seront comme un fil tenant toutes les perles de cette année liturgique. Tout d'abord, cette année sera faite de jours, 365. Chaque matin, levons-nous promptement, offrons notre journée à Dieu. Deuxièmement, récitons chaque jour le chapelet, comme la très sainte Vierge Marie nous l'a demandé. C'est le dernier remède pour obtenir notre salut. Troisièmement, ne passons pas un seul vendredi sans nous souvenir de la passion de notre Seigneur, en faisant une petite mortification en souvenir de cette passion. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de nous laisser conduire durant toute cette année comme un petit enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.